Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
8h, c'est toute l'actualité sur RTL et c'est avec Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Toujours pas de course de Noël ce week-end, en tout cas pas comme on en avait l'habitude.
Confinement oblige, seuls les achats de première nécessité sont autorisés, la fermeture des magasins, le télétravail et les cours en ligne. Pas simple de tenir la distance et quand on a le Premier ministre en face de soi, on ne se prive pas de le lui dire. Jean Castex effectuait un déplacement dans le Finistère hier, l'occasion de recueillir de nombreuses doléances.
On s'adapte, hein, comme on peut.
Oui, je suis désolé de vous faire faire tout ça.
Vous avez raison d'être désolé.
C'est pour des raisons.
J'espère que vous êtes désolé.
Je le suis.
Parce que vous nous compliquez la vie.
Oui, mais vous savez, vous en connaissez la raison.
Voilà. Mais il y a certaines choses que je ne comprends pas bien.
Expliquez-les-moi.
Je ne comprends pas, c'est qu'il y ait des endroits comme les coiffeurs qui sont sur rendez-vous. Ça pouvait très bien se faire.
Mais madame, plus on limite les occasions de sortie de chez soi, mieux c'est.
Vous êtes étudiant en quoi ?
Je suis étudiant en droit, je suis à Paris.
Et donc en distanciel, ça marche ?
À distance, ça marche, mais c'est compliqué. C'est pas comme avant, faut changer les choses. Il y a plus rapport aux études, c'est trop compliqué en ce moment. C'est pas tenable sur la durée, monsieur le Premier ministre.
Allez, merci.
Je compte sur vous.
Je fais tout ce que je peux.
Un propos recueilli par Jacques Seret. Alors le moral sera-t-il meilleur dans une semaine avec les chiffres de l'épidémie qui continuent à baisser? Emmanuel Macron pourrait bien annoncer mardi soir non pas un déconfinement total mais un allègement et surtout une réouverture de certains commerces. En tout cas, les voyants sont au vert, Armelle Lévy.
Oui, cette réouverture apparaît de plus en plus plausible parce qu'il y avait trois conditions. Que les commerçants, y compris sur Internet, acceptent de reporter tous ensemble le Black Friday pour éviter justement la cohue dans les magasins avec des promotions le week-end de la réouverture. Les commerçants, tous ensemble, ont accepté ce report. La deuxième condition, c'est de ne pas faire courir de risque aux clients quand ils reviendront en magasin. Et là encore, les commerçants ont accepté de mettre en place un nouveau protocole sanitaire plus strict en accueillant moins de monde dans les magasins. Un client ou un groupe d'une même famille pour 8 mètres carrés au lieu de 4 actuellement. Les grandes surfaces se sont engagées à faire un comptage à l'entrée et à la sortie. Et pour que les clients se croisent moins, les magasins pourront aussi ouvrir tous les dimanches de décembre et appliquer des horaires élargis. Pour le reste, vous connaissez déjà, masques, gel, plexiglas et marquage au sol obligatoire. Mais maintenant, il reste encore une condition pour pouvoir ouvrir les commerces samedi prochain, qu'il y ait vraiment une décrue de l'épidémie. Mais ça, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui pourra nous le dire mardi soir.
Les précisions d'Armelle Lévy pour RTL. Quand bien même les commerces rouvriraient dans une semaine, les grands marchés de Noël, eux, ont été reportés et il est trop tard désormais pour faire marche arrière.
Agnès, le reste de l'actualité ce samedi, c'est le dernier jour du procès de Jonathan Daval.
Pour avoir tué son épouse Alexia, l'homme de 36 ans, encourt la réclusion à perpétuité. Les débats très denses ont pris du retard. Le verdict devrait donc être rendu en fin de journée, après le réquisitoire et les plaidoiries de la défense, bien sûr. Hier, la parole était encore aux avocats des parties civiles, Samuel Goldschmidt.
Quatre avocats ont jeté leur dernière force et rassemblé leurs arguments hier soir en défense de la famille victime des actes de Jonathan Daval. Des actes longuement disséqués, l'histoire d'une monstrueuse trahison, ces trois mois de comédie ineffaçable entre la mort d'Alexia et la garde à vue de Jonathan, ces trois mois durant lesquels il joue le veuf éploré et qui resteront une meurtrissure ineffaçable dans la famille. C'est en rappelant tout cela que Gilles-Jean Portejoie, l'avocat des Fouillot, a remis à la cour la tâche de condamner.
On n'attend rien des réquisitions. Non mais c'est une vieille règle, on n'attend rien des réquisitions. On attend une décision juste, on attend une décision équilibrée, on attend une décision que l'on pourra comprendre, qui nous projettera vers le futur, car il y a un avant et un après procès pénal. On attend une décision, oui, à la hauteur de nos souffrances, mais c'est à l'avocat général de mettre ça en équation et de proposer une peine qui correspondent à nos désirs.
L'avocat conclut avec une citation de Paul Valéry : la fonction la plus essentielle de l'être humain, c'est de créer de l'avenir. C'est ce que je vous souhaite à toutes et à tous à travers la décision qui va être prise, y compris à vous, monsieur Daval.
Compte rendu d'audience signé Samuel Goldschmidt pour RTL à Vesoul. S'il ne devait plus pouvoir répondre de ses crimes, ce serait terrible pour les familles et cela rajouterait à leur colère devant les errements de la justice. inquiétude, très grosse inquiétude des parents, dont ceux d'Estelle Mouzin après l'hospitalisation de Michel Fourniret hier. Âgé de 78 ans, le tueur en série n'a pas fini de livrer les détails qui permettraient enfin de retrouver le corps de la petite fille disparue en 2003 à Guermantes.
8h04, vous restez bien là. Dans un instant, c'est la suite du journal avec Agnès Bonfillon, bien sûr, et toute l'actualité. Très bon réveil à vous tous.
RTL Matin. RTL Matin. Stéphane Carpentier.
À 8h06, la suite du journal avec Agnès Bonfillon. L'équilibre est réaffirmé entre la liberté d'informer et la protection des forces de l'ordre.
Satisfaction du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui voit le très controversé article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale adopté. Face à la défiance d'un grand nombre de rédactions, un amendement précise que la mesure ne peut porter préjudice au droit d'informer. Reste à savoir si cela sera suffisant. Hier, en tout cas, sur les bancs de l'Assemblée, l'ambiance était toujours très tendue. Écoutez cet échange entre Gérald Darmanin, justement, et Éric Coquerel, député de la France Insoumise.
Est-ce que des journalistes pourront filmer et diffuser sans floutage des policiers ou des gendarmes? La réponse est oui. La réponse est oui. Ça l'a toujours été, ça le sera. Et ça le sera demain.
Monsieur le ministre, depuis le début du débat, vous vous défendez en parlant d'empêcher les menaces de mort à l'encontre des policiers sur les réseaux sociaux, comme si menacer de mort un fonctionnaire de police n'était pas déjà interdit par la loi. Alors là, j'ai envie de vous dire, au lieu d'attaquer la démocratie et l'opposition, faites simplement votre boulot. Votre article 24 est condamné par l'ONU, par la Défenseure des droits, par les associations de droits de l'homme et l'immense majorité des syndicats de journalistes. En réalité, vous êtes seul à vouloir persister.
Des échanges recueillis par William Galibert pour RTL. De nombreuses manifestations sont encore prévues un peu partout en France aujourd'hui contre cette proposition de loi. Mardi soir à Paris, un premier rassemblement près de l'Assemblée nationale s'était terminé en échauffourée avec les forces de l'ordre et des interpellations de journalistes. Un hommage national sera rendu à Daniel Cordier en fin de semaine prochaine, vraisemblablement. L'ancien secrétaire de Jean Moulin est mort à l'âge de 100 ans hier. Il était l'un des deux derniers compagnons de la Libération encore en vie.
On en vient, Agnès, au football et au PSG en plein naufrage.
Énorme contre-performance hier soir pour les Parisiens qui ont perdu 3-2 à Monaco. Effondrement de l'équipe en seconde mi-temps et gros coup de massue pour les hommes de Tourelle, surtout à 4 jours du rendez-vous avec Leipzig en Ligue des Champions. L'entraîneur en est bien conscient. Enfin, pour l'instant, écoutez, il est surtout sonné.
Je ne sais pas si je suis en colère, je ne sais pas. J'ai vu, comme vous, deux mi-temps totalement différentes. On a contrôlé le match complètement, on a fait 4 buts. Je pense vraiment que c'était un but régulier, le troisième. Je comprends pas pourquoi ça compte pas, mais c'était une deuxième mi-temps complètement différente. Je peux seulement dire que c'est notre responsabilité. C'était pas assez sérieux, c'était pas assez serré, c'était pas assez agressif, c'était pas assez concentré avec le ballon, contre le ballon. On a perdu le contrôle et fait une grande erreur à la fin pour perdre. Ça, c'était absolument nécessaire. C'est notre responsabilité et ça fait un peu bizarre pour analyser.
Thomas Tourelle au micro de Mickaël Lefebvre pour RTL, toujours en Ligue 1. Défaite également de Rennes face à Bordeaux, 1-0. La suite de la 11e journée ce samedi, comme prévu, report de la rencontre OM-Nice. En revanche, Brest reçoit bien Saint-Etienne, ce sera à 17h. On refait le match à 18h30 comme tous les samedis, suivi de RTL Foot avec Christian Olivier jusqu'à 22h. L'honneur de la capitale en tout cas est sauf grâce aux filles. Eh oui, les Parisiennes ont battu Lyon 1-0. En judo, coup de chapeau ce matin à deux Françaises, Clarisse Agmenianou. Elle décroche le 5e titre européen de sa carrière dans la catégorie des moins de 63 kilos et dans les moins de 70 kilos. C'est Margot Pinault qui conserve sa médaille d'or.
On parle Beaujolais et c'est une tradition au Japon, ce Beaujolais. On ne fait pas que le boire sur place.
Et non, on se baigne dedans. C'est une tradition à Kanagawa, une trentaine de kilomètres de Tokyo. Cette année, cette tradition résiste à l'épidémie de coronavirus, Christophe Decroix.
Oui, quelques irréductibles se retrouvent dans un établissement thermal habituellement consacré aux bains d'eau chaude, les fameux onsen. Et c'est là que ces quelques privilégiés peuvent se baigner dans une eau à 39 degrés dans laquelle le personnel verse 3 fois par jour des litres et des litres de ce vin français si populaire au Japon. Quelques précautions ont quand même été prises, des cloisons ont été installées entre les groupes de buveurs et pour la première fois en 7 ans, la baignade de Beaujolais se fait en extérieur pour éviter au maximum la propagation du virus. virus. Ces amateurs se retrouvent ainsi dans une eau chaude, violacée de vin, avec une vue magnifique sur les montagnes. Mais pour les Japonais, boire Atsumono, c'est-à-dire boire la première récolte de la saison, c'est signe de nouveau départ et de chance, ce qui vaut bien un verre de Beaujolais chaud en maillot de bain.
Et vous dites campagne hein, pour dire santé au Japon.
Absolument.
Non, pas chin-chin.
Non, campagne. Christophe Decroix, il choisit toujours ses sujets. Hein.
Ah, toujours,
toujours,
on adore.
C'est comme ça. Agnès Bonfillon revient tout à l'heure vous informer à 9h sur RTL. Vous avez à disposition RTL.fr pour toute l'actualité. On parlait football avec Agnès. Place à la grosse cote à présent. Le pari sur l'actualité du ballon rond, c'est tous les samedis matin.